Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler de trouver le problème et le résoudre quand quelque chose ne fonctionne pas dans ton business, et cela grâce au rôle de l'audit. Alors, je vais te livrer ma méthode étape par étape dans cet épisode pour que tu puisses l'appliquer à ta problématique du moment, donc à ce qui ne fonctionne pas dans ton business actuellement, et que tu puisses du coup comme venir auto-diagnostiquer, auto-auditer ton business à l'heure actuelle, et particulièrement en te concentrant sur ce qui ne fonctionne pas. Alors moi, cette idée de sujet, elle m'est venue d'un audit que j'ai réalisé en coaching one-one suite au lancement d'un programme d'une de mes clientes dont les ventes n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Et donc, on va un petit peu se servir de cet exemple en fil conducteur pour voir justement le rôle de l'audit quand quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus, et en quoi cette étape va finalement nous permettre déjà de prendre du recul, de se détacher un petit peu des enjeux, de s'en remettre, parce que aussi en analysant et en passant à l'action, en comprenant les choses, c'est plus facile ensuite d'avancer et du coup de venir rectifier le tir pour la suite plutôt que de rester coincé un petit peu dans ce marasme, voire de tout remettre en question ou de tout remettre en doute. Alors, petit disclaimer toutefois, très souvent, évidemment, dans ce genre de situation, on me dit, alors que ce soit, ça peut être des clientes, mais ça peut être aussi des personnes de ma communauté, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, ou j'ai tout fait comme il faut, et ça ne marche pas, ou ça n'a pas marché. Ou encore, je remets tout en question parce que j'ai l'impression de tout bien faire. Je viens de passer des mois de travail intense sans relâche pour rien. Voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc, c'est vrai que souvent, tu as probablement mis tout ton cœur et fait beaucoup d'efforts, surtout que probablement qu'il y a beaucoup de choses nouvelles pour toi. Donc, tu es déçu du résultat, c'est vrai. Mais là où je t'arrête, c'est que non, tu n'as probablement pas fait tout ce qu'il faut comme tu l'entends. D'où l'importance justement de venir regarder les choses de manière factuelle, de manière objective pour réussir à mettre le doigt sur le problème et ne pas rester en fait dans des ressentis. Alors c'est sûr qu'avoir le regard extérieur d'un coach, c'est souvent un plus, hein. Moi avec ma cliente, évidemment elle m'a adressé ce message après l'audit qu'on a fait ensemble, me remerciant donc pour la richesse de nos échanges, et elle m'a dit que c'est exactement ce qu'il lui fallait pour sortir du trou dans lequel elle s'était coincée, où elle était coincée. Et donc, même si toi, aujourd'hui, t'as pas forcément le regard extérieur d'un coach ou d'un coach en one-one qui va vraiment rentrer à l'intérieur de tout ton business, déjà avec cette méthode, avec ce que je vais te livrer aujourd'hui, tu vas pouvoir faire ce travail, toi, en toute indépendance, et puis du coup aussi aller de l'avant. Et probablement derrière, finalement avoir des questions pertinentes pour te remettre en selle plutôt que dire « Ah, ça marche pas, j'arrive pas, j'ai tout fait, je comprends pas, etc. » Donc on est parti pour un audit en 5 étapes et 2 petites pistes, bonus que je te donnerai à la fin. La première étape par laquelle on va commencer, c'est tout d'abord de revenir sur les résultats que tu t'étais fixé, donc pour identifier ce fameux résultat que peut-être toi tu juges décevant, mais on va revenir à la base sur tes objectifs, et puis on va aussi dans cette première étape donc identifier le résultat obtenu, mais aussi le contexte dans lequel peut-être t'as lancé ta nouvelle offre, puisque c'est le cas de ma cliente. Donc dans le cadre de notre lancement, pour évaluer si ce lancement il est raté ou non, mais ça pourrait être pareil dans le cadre de, par exemple, évaluer ta stratégie de communication, Ça sous-entend, pour savoir si c'est atteint ou pas atteint, que des objectifs de vente doivent être posés au préalable. Alors ça peut être un objectif, je veux faire 10 ventes, ou ça peut être une échelle d'objectifs, à minima 5, 10 je serai contente, et puis 15 c'est l'euphorie. Ok, donc ça peu importe, ça peut être aussi en nombre de ventes, ça peut être en chiffre d'affaires, par exemple je veux faire le même chiffre d'affaires que le lancement, ou je veux finir mon premier trimestre au même niveau de chiffre d'affaires que le trimestre de l'année dernière, ou voilà. Enfin, donc, par rapport à tout ça, en fait, tu peux définir un objectif pour ce lancement, par exemple, ou pour ta stratégie de communication. Mais en tout cas, il nous faut des chiffres factuels parce que ça va nous servir de référence, en fait, pour mesurer concrètement ton résultat. Si t'as pas d'objectif et que tu fais, je sais pas, 5 ventes, comment est-ce que tu peux juger que c'est bien, que c'est satisfaisant ou au contraire que c'est décevant? En fait, si on n'a pas de curseur, de référentiel préalable, bah on peut pas mesurer ce résultat. Alors que si tu avais un objectif de 5 et que tu en fais 10, bah tu sais que c'est une réussite ou pas. Bon, je pense que jusque-là, tu as compris. Et nous, en tout cas, avec ma cliente, dans notre cas, c'était un flop. Dans le cas, du coup, d'un lancement raté, si à partir de cette étape-là, alors, si à partir de cette étape-là, ton lancement, il a réussi, ce que je t'invite à faire, du coup, je sors un peu de l'audit dans le cas où il y a un problème dans mon business, c'est pour le coup, là, d'aller plutôt faire un bilan de lancement, ok? Pour essayer, bah voilà, de refaire le point, de regarder tout ce que tu as mis en place, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, etc. Mais on est dans une démarche un petit peu différente. Là, au contraire, on va venir creuser, toujours en gardant en tête qu'à un moment donné, il y a un loupé, et donc... avec un objectif de mettre le doigt dessus. Donc là, on imagine que ça s'est pas passé comme on voulait, on n'a pas atteint notre objectif, d'accord? Donc dans ce cadre-là, ce qu'on va venir faire aussi, c'est venir se poser cette question suivante. Est-ce qu'il y a pu y avoir un facteur extérieur, un facteur peut-être d'ordre personnel, parce qu'on sait que la frontière est mince quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, une circonstance, même si à la base une circonstance est neutre, mais on sait que selon comment on réagit à cette circonstance, eh bien ça peut venir perturber notre travail, donc perturber notre lancement, perturber notre emploi du temps, notre organisation, le timing, etc. et donc venir perturber ce qu'on avait prévu. Alors, si tu me connais aussi, tu sais que pour moi, la responsabilité, elle vient rarement de l'extérieur, puisque, comme je le disais, c'est la manière dont on va réagir à des circonstances, à ces circonstances qui finalement va impacter nos pensées, nos actions et nos résultats. Mais on peut pas quand même mettre de côté que, oui, une crise de couple, oui, un décès, oui, la Covid, l'absence de nounou ou de garde à l'école, enfin d'école, etc. Tout ça, bien évidemment, que ça peut avoir des répercussions et encore plus, j'ai envie de dire, quand on est sur des premiers lancements, quand on est en train de, voilà, de créer ses premières offres, de lancer ses premières offres, on n'est pas trop encore familiarisé à l'exercice, on n'est peut-être pas encore rodé à la méthode, on ne sait pas peut-être sur quoi on peut gagner du temps, ce qu'on peut laisser de côté, etc. Donc, bon, c'est assez humain en fait, ok? Donc, c'est quand même une question à se poser. Ce contexte, il est à intégrer dans l'audit effectivement que tu viens faire de ton problème ou du problème rencontré. En l'occurrence, nous, donc, on avait un objectif de 10 ventes, il y a eu 0 vente et il n'y avait pas de contexte particulier. Donc, bah, on peut imaginer que la solution, ou le problème en tout cas, se trouve dans la suite de cet audit. Alors, on va justement passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, on va détailler le parcours de notre client. En fait, quand on lance une offre, on met en place des stratégies, en fait, hein, à partir du moment, entre guillemets, où on a l'idée de cette offre jusqu'à accueillir nos premiers clients. Et en fait, finalement, c'est tout un parcours client qu'il y a entre les deux. Donc, il y a des étapes préalables avant de lancer une offre. On va souvent identifier un besoin auquel on va répondre. Donc, ça va être notre idée d'offre. On va ensuite packager une solution pour répondre à ce besoin. Donc, ça va être notre solution. On va communiquer sur ça. Et puis, donc avant, pendant le lancement. Et puis, on va mettre en place une stratégie de vente, voire même une stratégie de lancement. Donc ça, c'est vraiment les étapes bah, qui arrive avant de faire 0 vente, 10 ventes ou 20 ventes. Donc l'objectif de cette étape-là, de cette deuxième étape de l'audit, c'est de reprendre une par une justement ces étapes par lesquelles on est passé pour arriver jusqu'au lancement de notre programme, jusqu'au jour J, et de venir finalement un petit peu comme décortiquer, disséquer toutes les stratégies qu'on a mis en place. Donc la première, c'est effectivement, j'ai une idée de programme, et je suis allée vérifier soit si ça correspond à un besoin. Alors souvent, quand c'est dans ce sens-là, c'est souvent là où parfois on est amoureuse de son idée, comme je dis souvent, et puis on a un peu des œillères pour voir le vrai besoin de nos clients, parce qu'on a tellement cette idée en tête que finalement, on fait pas bien attention à ce que notre audience veut. Et puis, il y a le cas inverse, j'ai pas d'idée, donc je vais travailler sur mon client idéal, mon étude de marché, voilà, voir par rapport à ma thématique, etc. C'est quoi le besoin principal, le besoin urgent, et du coup je vais calquer mon idée de programme, mon sujet là-dessus. Et souvent l'erreur part de là en fait, et malheureusement j'ai envie de dire vous aurez jamais personne, même un coach hein, qui sera aussi bien placé que vous par rapport à ça. Personne ne peut connaître mieux que vous votre client idéal, votre compétence, comment vous pouvez les aider, ce que vous connaissez de votre client idéal, si vous avez identifié le bon besoin. Évidemment on peut poser des questions, on peut vous guider, on peut, voilà, mais à un moment donné, c'est vrai que il n'y a que vous qui avez aussi toutes ces clés, d'où vraiment l'importance de d'être super objectif quand on est dans cette étape-là de l'idée du programme. Et souvent, en fait, il y a un gap entre ce que veut votre audience et votre offre à vous. Donc, entre guillemets, entre le problème qu'il faudrait identifier et la solution que vous allez offrir. Alors, soit vous réussissez pas à identifier le bon besoin, le bon problème, soit on n'a pas forcément proposé la bonne solution en face. Ou alors, on peut avoir identifié le besoin partiellement ou avoir une solution et une réponse partielle. Donc, si je prends un exemple, vous vous adressez à des femmes stressées et débordées, vous avez identifié que c'était ces femmes-là, votre clientèle idéale. Alors, même si moi, des femmes stressées et débordées, je déconseille en termes de client idéal. Enfin, pour moi, il y a d'autres choses derrière. En fait, femmes stressées, ça veut rien dire parce qu'il y a plusieurs sources de stress, mais admettons. Donc, vous adressez à des femmes stressées et débordées et vous voulez encourager ces femmes ou soutenir ces femmes dans le fait d'avoir une mini pratique ou une mini routine de yoga régulière pour qu'elles aient un moment à elles dans la journée. Et donc pour ça, vous allez proposer un programme de yoga de 3 mois pour apprendre à créer soi-même ces mini routines de yoga et savoir quoi faire en fait pour se faire du bien chaque jour quand on déroule son tapis de yoga, ou même pourquoi pas dans sa journée de travail, sans forcément avoir à se connecter à une vidéo en ligne ou quoi, c'est-à-dire être capable finalement d'avoir une petite pratique autonome, des petites pratiques courtes qu'on peut faire n'importe quand, et plus on a ces petites pratiques là au quotidien, mieux finalement ça va influencer notre journée et on va se sentir. Donc dans l'idée, ça a l'air séduisant, sauf que moi je vais déjà vous montrer comment on peut décortiquer tout ça. Est-ce que ces femmes à qui vous parlez, elles sont vraiment stressées et débordées? Parce que ça, je vois ça hyper souvent, mais toutes les femmes ne sont pas stressées et débordées en fait, ou en tout cas pas forcément dans le sens où on l'entend. Donc est-ce qu'elles sont stressées et débordées, ou alors est-ce que je m'adresse à des femmes qui peut-être ont juste conscience, envie, veulent une pratique de self-care quotidienne. C'est par exemple, moi, mon cas, je me sens pas stressée. Mais par contre, c'est vrai que j'apprécie, parce que j'ai conscience que voilà, ça me fait du bien. J'ai envie d'avoir ce lifestyle avec une routine self-care quotidienne, un peu de yoga, un peu de course à pied, enfin, peu importe, ok? Donc déjà, ça, c'est la première question. Est-ce que vous vous adressez bien à la cible? Voilà, moi, si vous me parlez de femmes débordées et stressées, par exemple, je vais pas me reconnaître, je vais pas me dire, ça, c'est pour moi, en fait. Ensuite, deuxième question. Si ces femmes à qui vous vous adressez, elles sont vraiment stressées, débordées, submergées, on peut imaginer, overbookées, alors est-ce qu'elles ont vraiment envie d'apprendre à créer leur flow? Ou est-ce qu'elles aimeraient plutôt, pourquoi pas, un planning de mini-pratiques à suivre sans se poser de questions?
un peu genre tous les jours, voilà, il y a un planning, elles cliquent, elles font la vidéo, ça dure 10 minutes, 15 minutes parce qu'on a identifié qu'elles aimaient les pratiques courtes et basta. Parce que si elles sont vraiment débordées et stressées, peut-être qu'elles n'ont pas le temps d'apprendre à faire quelque chose de nouveau et que c'est pas du tout ce qu'elles recherchent. De la même façon, est-ce qu'elles ont vraiment le temps de passer 3 mois, date à date, dans un programme avec des rendez-vous, entre guillemets, imposés? Donc, est-ce que c'est judicieux de proposer une offre qui va être disponible, par exemple, dans le cas de ce programme, sur 3 mois, alors que peut-être que si c'est des femmes actives professionnellement, peut-être que ça va tomber avec une période d'activité professionnelle intense, et que déjà, par définition, cette espèce de container de 3 mois à date fixe avec des rendez-vous, etc., même si, OK, il y a des replays, etc., mais elles vont pas se sentir concernées ou elles vont se dire « Non, mais moi, j'aurais pas le temps de toute façon, donc j'y vais pas. » OK ? Donc, tout de suite, on voit déjà qu'on a pu passer à côté du vrai problème. Déjà, est-ce qu'on est sûr qu'on a bien qualifié notre audience de ce qu'elle veut vraiment et de la bonne solution ? Ici, c'est possible qu'on ait extrapolé, qu'on ait imaginé des choses, qu'on soit tombé amoureuse de notre idée, qu'on a cru que c'était ça ou que notre audience était celle-ci, puis en fait, pas tout à fait. Donc ici, on voit l'importance de la connaissance parfaite de son client idéal et de ses mots et de ses situations de vie concrètes plutôt que d'utiliser des termes génériques. Peut-être que, in fine, en fait, notre audience, c'est des femmes épanouies qui ont complètement conscience d'intégrer une pratique de yoga dans leur quotidien, ça peut influencer leur journée et elles sont friandes de ces pratiques courtes à emporter partout, à faire rapidement parce qu'elles ont pas vocation à avoir envie de passer 3 heures sur leur tapis, en tout cas pas pour l'instant. Et clairement, elles veulent pas perdre du temps à apprendre quelque chose ou à chercher des vidéos. Donc, on se rend compte que là, clairement, l'idée de base, elle est probablement à côté de la plaque. Et ça, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors, j'ai déjà un peu extrapolé sur la deuxième étape, mais dans le processus Yogi Bizline, quand on crée une offre, après avoir identifié ce problème, ce besoin, on va effectivement venir définir tous les contours de l'offre qu'on va proposer. OK? Donc, autrement dit, on va créer notre solution, pas encore concrètement dans le dur, enregistrer les vidéos, etc., mais on va venir packager l'offre. Donc, packager l'offre, ça veut dire donc à qui je m'adresse, quelle est la promesse de mon offre et ses bénéfices, combien de temps ça dure, s'il y a un timing, quel est le soutien et les bonus apportés, et quel est le prix de mon offre, voilà. Donc, on est censé être capable, finalement, en une phrase, de venir un petit peu comme pitcher, on va dire, son offre. Donc moi, par exemple, Yogi Bizline, c'est un programme business premium qui accompagne les profs de yoga à créer, développer et vivre de leur activité en ligne grâce aux opportunités du web, avec une méthode pas à pas, en accès illimité et avec un soutien personnalisé pour 1 997 €. Je m'adresse à qui ? Aux profs de yoga. C'est quoi promesses et bénéfices ? C'est créer, développer, vivre de son activité en ligne grâce aux opportunités du web, et c'est pas apprendre le marketing digital, par exemple, ce qui est complètement différent. Le soutien, c'est qu'on est sur une méthode pas à pas, donc on procrastine pas, ou plutôt on s'éparpille pas, et on est dans un coaching personnalisé, donc possibilité d'avoir des réponses à nos questions, même si, encore une fois, c'est pas un coaching one-one, ça reste un coaching collectif, mais on peut quand même poser des questions personnalisées, avoir des réponses personnalisées. Le temps, c'est illimité. Donc, c'est pas 3 mois, 4 mois, 1 an, je sais pas quoi, c'est illimité. Le tarif, qu'on pourrait considérer premium, même si par rapport à la valeur de l'offre, c'est très accessible et ça vaut le coup, mais ça reste un tarif premium. Donc, dans notre cas précédent, ou dans le cas de ma cliente, si je pitch l'offre, je vais me rendre compte justement à ce moment-là peut-être aussi de la dissonance entre je m'adresse à des femmes pressées et débordées, puisque c'était ma cible de départ, et je leur vends un programme qui leur apprend à créer quelque chose, donc on est vraiment, faut avoir le temps pour apprendre quelque chose, avec un engagement de 3 mois, alors c'est pas tant l'engagement de 3 mois, mais en tout cas avec des dates précises, peut-être des coachings aussi collectifs qui nécessitent d'être présentes. Donc déjà, on voit, rien que quand on dresse le portrait, quand on fait sa phrase de pitch, des contours de l'offre, bah, que probablement, effectivement, il est possible qu'il y ait une dissonance. Alors, quand on a la tête dans le guidon, je sais, peut-être qu'on le voit pas, et moi, effectivement, j'ai l'habitude, mais voilà, je vous invite à challenger un petit peu justement ça et à voir si, femme pressée et débordée, est-ce que j'ai le temps d'apprendre quelque chose, est-ce que j'ai le temps d'aller à des rendez-vous fixes, etc., etc. Troisième étape, c'est la stratégie de communication. Ok, donc j'ai identifié mon besoin, j'ai packagé une solution pour y répondre et maintenant, je communique. Donc je pense que tu le sais maintenant, hein, on crée pas une offre tout seul dans son coin et on débarque pas comme ça sur Instagram « Ouh, j'ai quelque chose à te vendre ». On considère qu'il y a une phase de pré-lancement où on va faire du teasing. Alors cette phase, elle peut être plus ou moins longue en fonction Alors, en fonction du niveau de conscience de notre audience, mais aussi en fonction depuis combien de temps on communique, est-ce qu'on a déjà lancé cette offre ou pas, est-ce que c'est quelque chose qui m'était demandé par mes clients. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que cette phase de pré-lancement elle est plus ou moins longue. Mais en tout cas, en général, c'est une phase pendant laquelle on va faire du teasing, on va montrer nos backstage, on va montrer ce qu'on est en train de faire, voire co-créer avec notre audience, par exemple pour le nom, pour les couleurs, pour des choses comme ça. Voilà, on va vraiment montrer ce qui se prépare en coulisses. Et puis une phase de communication pendant le lancement qui, elle, est plus orientée sur les bénéfices de l'offre, pourquoi c'est la bonne solution et pourquoi vous êtes la bonne personne par rapport à la problématique de votre audience, et puis évidemment des témoignages, de la preuve sociale, etc. Ou votre propre expérience d'ailleurs. Donc, la question ici, c'est est-ce que j'ai été suffisamment visible? Est-ce que j'ai été présente plus que d'habitude sur mes canaux de communication? Alors, sur un canal, sur plusieurs canaux? Est-ce que c'est là où il y a mon audience? À quelle fréquence j'ai communiqué? Et ici, moi, souvent, hein, clairement, j'ai des personnes qui me disent j'ai tout fait comme il faut et j'ai juste acheté un coup d'œil sur leur compte Instagram pour me rendre compte qu'en fait, il y a 3 posts qui se battent en duel. On voit même pas qu'il y a eu un programme en vente à un moment donné. C'est brouillon ou c'est pas clair ou voilà. Il n'y a pas eu forcément de séquence email de vente. Le délai pour communiquer, il a été, en 3 jours, c'est une nouvelle offre. Je viens de commencer à communiquer. Je te vends, tu prends ou tu prends pas, je ferme les portes. C'est beaucoup trop court, en fait. Les gens, ils ont même pas le temps vraiment de se poser des questions sur le sujet. J'ai d'ailleurs vu ça dernièrement sur un lancement qui a été un peu comme stoppé en cours de route parce que les résultats avaient pas été aussi bons que lors du premier lancement. Donc, il y avait comme un truc, de « je me sens pas bien, ce lancement est en train de foirer, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, c'est juste que la première fois, quand cette offre elle a été lancée, l'audience, elle était chaude. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'engouement parce que des personnes attendaient cette proposition, étaient fans de cette personne, de son contenu. Et donc, effectivement, dès que l'offre est sortie, il y a eu des achats. Mais sur un second lancement, surtout s'il est plus ou moins rapproché, effectivement, là, il faut considérer que ça peut prendre un peu plus de temps parce que c'est des personnes qui peut-être nous ont connus lors de ce précédent lancement et qui sont peut-être pas encore tout à fait prêtes, et les déclics peuvent venir aussi au fil des jours. Donc parfois on a tendance à raccourcir ou à prendre des décisions en plein lancement alors qu'en fait on oublie que l'audience elle a besoin de plus de temps, et ça veut pas dire que le lancement il est foiré ou voilà. Donc là, dans notre cas à nous, il y avait une stratégie de contenu bétonnée. On a une très très bonne stratégie de contenu chez ma cliente. Sauf qu'en fait, cette stratégie, cette communication, si on reprend notre cible de femme débordée et pressée à la base, on a une communication qui est extrêmement chargée d'une part visuellement, donc qui peut vite être finalement, je vais pas dire illisible, mais en fait... Il y a trop d'infos, il y a trop de choses, c'est trop souvent, il y a trop de trucs à lire, c'est trop parfait. Et aussi une communication qui peut être très longue, je pense notamment dans les newsletters. Longue, détaillée, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Donc très complète en soi, mais sauf que on n'a pas l'effet escompté parce que notre public, si c'est vraiment des femmes submergées, débordées, etc., elles se retrouvent finalement avec trop d'infos et... autrement dit, une charge mentale supplémentaire. Donc attention, parfois, plus et trop, ça peut aussi être finalement l'ennemi du bien. Et enfin, la dernière stratégie à disséquer, c'est la méthode de vente qui va être mise en place. Donc là, il existe plusieurs méthodes de vente, hein. Ça peut être une masterclass, un atelier, un challenge, des stories, des lives, une candidature si on est dans le cadre, par exemple, pourquoi pas d'un bêta test. Voilà, ça peut être une stratégie de pré-vente, donc avec des emails, ça peut être des appels découvertes, une séquence email. Donc pour cette partie-là, en fait, on va voir que c'est surtout dans l'étape 3 de l'audit que ça se passe, puisque bah, l'étape 3, justement, donc sans transition, là, on va aller fouiner dans la data, donc dans les analyses chiffrées. Et là, typiquement, on est dans la méthode du bilan de lancement, hein, où on vient mettre des chiffres, où on vient relever toutes les données factuelles en notre possession, pour bah, toutes ces étapes et toute cette stratégie qu'on a mis en place. Donc, par exemple, on peut se replonger dans son étude de marché ou dans l'étude de son client idéal, si je fais le parallèle avec le point numéro 1 de l'étape précédente, retourner dans ses interviews, dans ses questionnaires, dans les statistiques d'audience aussi sur Insta. Enfin voilà, dans tout un tas de choses. Et peut-être ici déjà, bah, revoir si effectivement, maintenant qu'on en est là, est-ce qu'on est un peu plus clairvoyant sur le fait que peut-être on s'était un peu mis des œillères, ou on a un peu suivi notre idée, mais on n'a pas forcément finalement réutilisé les termes, les besoins, le problème de notre audience. Donc est-ce que j'ai ciblé un problème qui existe vraiment avec une solution qui était attendue, ou est-ce que effectivement, j'ai peut-être un peu digressé parce que j'étais un peu dans mes idées, mes envies, en fait. Ok, donc ça peut être une première étape. On peut aussi, du coup, aller en termes de communication, bah, regarder si y a eu, par exemple, des... Alors, les posts de vente pure, hein, ça ne... y a jamais d'engagement, c'est normal. Hein. Dès que vous allez publier un truc avec, genre, le mock-up de votre offre ou je ne sais quoi sur Instagram, ça, c'est clair, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'enregistrement, etc. Par contre, ce que vous pouvez aller voir, c'est les clics sur votre lien en bio, éventuellement. Vous pouvez regarder aussi si vous avez plus de DM, de questions dans vos messages privés. Et puis, bien évidemment, en termes de communication, vous pouvez aller regarder aussi l'ouverture de vos mails, les taux d'ouverture de vos mails. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné? Est-ce que vous êtes dans la norme en termes de taux d'ouverture? C'est mieux que d'habitude, c'est moins bien? Vous pouvez aussi aller traquer normalement avec votre outil d'emailing les clics sur le lien de la page de vente. Donc, dans les emails, quand vous mettez en avant votre page de vente, bah, vous avez la possibilité dans votre outil d'emailing de voir si des personnes ont cliqué sur ce lien. Donc, c'est notamment des informations dont je parle en détail hein, dans mon bilan de lancement, si vous voulez réécouter le bilan de mon dernier lancement. Mais voilà, donc tout ça, c'est vraiment des stats qu'on va aller analyser, qu'on va aller regarder. Concernant la stratégie de vente, bah, on peut aller regarder, par exemple, si on a fait un challenge ou un atelier ou quoi, est-ce qu'on a des personnes qui se sont vraiment inscrites ? Auquel cas, bah, ça veut dire que le sujet, visiblement, était intéressant, pertinent. Est-ce que ces personnes, elles ont réellement participé? Peut-être que vous pouvez voir si elles ont regardé les replays. Et puis, bah, effectivement, derrière, est-ce qu'il y a eu des conversions ou pas? Et auquel cas, bah, si j'ai eu du monde au challenge, peut-être que si j'ai pas eu de conversion, c'est que, justement, il y a un... c'est pas en adéquation avec ce qu'attendent finalement ou ce qu'attend mon audience. Vous pouvez aussi aller voir si vous avez une page de vente sur un site, par exemple, bah, le nombre de visites de votre page de vente ou de clics jusqu'à la page de paiement et voir un petit peu en gros le nombre d'abandons. Ou encore, il peut y avoir d'autres infos, comme par exemple, je vous donnais l'exemple donc dans l'épisode sur le challenge concernant la pub, par exemple. Moi, j'avais... donc pas mal de, admettons sur une base 100, parce que je me rappelle plus des détails, mais admettons 100 personnes qui avaient cliqué sur la pub, donc qui potentiellement étaient intéressées par l'inscription au challenge, et proportionnellement, admettons, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais sur ces 100 personnes, j'ai 20 personnes qui se sont vraiment inscrites quand elles sont arrivées sur la page d'inscription. Donc là, moi, ce que ça m'a mis en avant, c'est que j'avais essayé de communiquer sur deux cibles, à la fois les profs de yoga d'un côté et à la fois les entrepreneurs du bien-être. Et probablement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair entre les pubs qui communiquaient sur ces deux cibles-là et le message qu'on voyait d'abord quand on arrivait sur ma page d'inscription et peut-être même le sujet du challenge. Donc, bah, c'est pas grave à ce niveau-là, mais c'est des axes d'amélioration. Et justement, on va y venir tout de suite, puisque maintenant que vous avez relevé toutes ces datas, plus c'est factuel, hein, plus vous allez pouvoir avancer avec clarté, même si je sais que c'est pas facile de relever toutes ces données. Mais ensuite, à partir de tout ça, justement, eh bien, on va pouvoir juste comme faire un bilan. Et moi, je vous invite à faire ce bilan avec la méthode KISS. Donc, j'en parle assez régulièrement. La méthode KISS, c'est Keep, Improve, Start, Stop. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui a bien fonctionné finalement? En tout cas, d'où est-ce que j'ai identifié que le problème ne vient pas? Et donc, à la limite que même je pourrais amplifier. Donc par exemple, ça peut être ok, ben moi le challenge en stratégie de lancement, ça a super bien marché, j'ai eu du monde qui s'est inscrit, qui a participé, enfin ça c'est plutôt bon signe, j'ai envie de continuer sur cette tendance-là. Improve, donc ça c'est ce que vous pouvez améliorer. Ou ça peut être aussi qu'est-ce que vous pouvez faire de plus. Donc là, par exemple, si je reprends l'exemple de ma cliente, bah, peut-être qu'on pourrait se concentrer sur des contenus plus fluides, ok. Start, donc c'est qu'est-ce que je vais commencer à faire ou qu'est-ce que je vais faire autrement. Donc là, par exemple, bah, on pourrait se dire que effectivement, il faut refaire une étude de marché, refaire une étude du client idéal, retravailler le positionnement, bien identifier le besoin et donc ça on le verra dans l'étape d'après, mais peut-être prévoir des appels clarté ou même des offres plus one-one, le temps en tout cas de comprendre ce que veut vraiment mon audience, ok. Et puis dernière étape de la méthode KISS, donc c'est stop, ce que j'arrête, ce qui a pas fonctionné. Donc là en l'occurrence, bah clairement c'est l'offre telle qu'elle est avec cette promesse en fait, hein. Donc ça veut pas dire que elle pourra pas être adaptée, cette offre. Mais en tout cas, là, en l'état, clairement, il faut à minima revoir la promesse et donc peut-être derrière, par répercussion, revoir le contenu. Et du coup, là, je rebondis, mais d'où le truc de vendre l'idée aussi avant de créer tout le contenu d'un programme. Parce que là, si j'ai pas créé le contenu en amont, que j'ai juste créé ma page de vente, je balance en ayant fait de la com et en disant bah voilà il y a ça, ça te plaît, t'achètes pas, bah si j'ai pas passé 6 mois à créer au préalable, du coup c'est aussi un peu plus facile de rebondir et de me remettre entre guillemets de cet échec ou de cette étape qui n'a pas fonctionné. Donc en tout cas cette méthode KISS, hein, et ce petit bilan en 4 cases là, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore ou que je peux faire de plus, qu'est-ce que je commence ou je fais autrement et qu'est-ce que j'arrête, eh bien ça va nous servir pour itérer et à partir de ça on va surtout pouvoir mettre un plan d'action correctif en place. C'est la 5e et dernière étape de notre audit, de mettre un plan d'action en place, parce que c'est bien d'avoir identifié les choses, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Donc on a identifié le problème, on va mettre en place on va identifier des solutions et on va venir planifier finalement les actions à mettre en place pour justement corriger tout ça et œuvrer vers les solutions. Donc par exemple, on pourrait très bien se dire, déjà comme j'ai envie de refaire une étude de marché, de mieux comprendre mon client idéal, etc., peut-être qu'une des premières actions que je peux mettre en place, c'est de faire un questionnaire post-lancement pour comprendre ce qui n'a pas forcément fonctionné et en même temps effectivement donc prévoir du temps pour retravailler sur mon client idéal, mettre en place des appels clarté. Donc c'est vraiment passer tout de suite à l'action pour prévoir des appels avec mon audience par exemple et du coup repartir sur retravailler sur le besoin de mon audience et je vous ferai un petit bonus là-dessus en conclusion de cet épisode. Deuxième chose que je peux mettre dans mon plan d'action, je vous partage un petit peu le plan d'action qu'on a mis en place avec ma cliente, ça peut être aussi, peut-être que ce lancement, il y avait un objectif de chiffre d'affaires derrière, donc qu'est-ce que je peux faire à la place pour venir peut-être faire de cet échec de lancement, entre guillemets, une opération blanche et puis venir compenser le chiffre d'affaires que j'ai pas fait. Et là, peut-être que par moment, il faut savoir repartir sur du one-one. Donc pour justement bien réidentifier un petit peu les besoins, ce qui fonctionne, les retours, les points de blocage, etc. Donc là, bon, c'est le plan d'action en tout cas qu'on a défini ensemble. Ensuite, beaucoup de on a vu hein, que notre cliente, elle crée beaucoup de contenu gratuit, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc l'idée, justement, comme on sent la piste hein, pour se réorienter, que c'est plutôt des femmes qui ont envie d'intégrer dans leur lifestyle des petites pratiques au quotidien pour le self-care, etc. Hein, après discussion, moi, pendant l'heure d'audit, on a plutôt identifié cette piste-là. Donc l'idée, justement, pour venir valider ça, ça va être de créer un nouveau lead magnet. Et comme on a beaucoup de contenu gratuit, notamment avec plein de petites pratiques courtes qui sont proposées gratuitement, l'idée, ça serait de les recycler dans un package sur mesure, par exemple, de pratiques pour 10 jours. Avec bah, justement comme on veut influencer la journée, donc on va orienter nos vidéos, en tout cas on va peut-être leur mettre des titres avec bah, comment passer de telle humeur ou telle émotion ou tel état. Et l'idée ça serait de packager ça, genre ta pratique pour 15 jours sur mesure, etc. Et de mettre ça en lead magnet, donc en téléchargement gratuit, hein, donc sur base de recyclage, il n'y a rien à créer de nouveau. Et on va pouvoir aussi bah, voir est-ce que finalement il y a de l'engouement pour ça. Et s'il y a de l'engouement, bah, ça nous donne déjà une bonne piste et des bons signaux pour l'offre qui pourrait être du coup plus complète et basée là-dessus. Donc soit peut-être sur des pratiques sur mesure chaque mois ou des packages comme ça, etc. Donc à suivre. Et puis évidemment, entre autres, comme autre action, on a aussi identifié, donc on avait visuellement quelque chose qui était peut-être un peu chargé, trop d'informations, beaucoup de détails, très complet, donc épurer visuellement le contenu et peut-être aussi un petit peu raccourcir nos newsletters, surtout qu'en termes visuels aussi c'est important parce que bah, entre des femmes épanouies, enfin comment dire, entre des femmes qui ont envie d'un certain lifestyle, etc., versus je m'adresse à des personnes débordées, peut-être que l'identité visuelle peut aussi un petit peu évoluer ou bouger. Alors, sans tout remettre en question, hein, mais voilà, c'est des choses en tout cas qu'on a vues ensemble. Et bien évidemment, une fois qu'on a mis en place ce plan d'action correctif, bah, l'idée, c'est de planifier tout ça dans son agenda pour passer concrètement à l'action et étape par étape mettre tout ça en place. Donc voilà pour l'audit, en tout cas pour ces différentes étapes, je vais le récapituler après. Je voulais, avant d'en terminer, partager deux petits bonus supplémentaires ici, en tout cas deux freins à la vente que j'identifie très souvent. Donc le premier, c'est d'avoir confiance à 100% en son programme. C'est-à-dire que malheureusement, hein, si tu sens que ton programme, par exemple, il a besoin d'une mise à jour et que tu es quand même sur le point de faire un lancement, il y a de fortes chances pour que tu vendes pas grand-chose, pour que ça foire, parce que bah on a beau dire, mais comme tu seras pas hyper fière, pas satisfaite de ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, bah du coup ta communication elle va pas être la même, tu vas et ça va se ressentir. Hein, y a comme un truc d'énergétique qui se joue là. Hein, on peut pas nier ça, ça se sent. Donc partir sur un lancement alors que je me dis, ah ben non, mais il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont pas à jour, etc. C'est plus compliqué. Pareil, changer de discours en cours de route, bifurquer, ça veut dire que vous n'êtes pas au clair sur votre message, à qui vous vous adressez, ce que vous voulez proposer. Et ça, clairement, bah, ça marche pas souvent. Donc vraiment, alors je dirais aussi, c'est donner les moyens à votre lancement, enfin lui donner sa chance en fait, hein, en allant jusqu'au bout et en ayant confiance à 100% dans votre process et dans là où vous allez avec votre lancement. Donc ça aussi, je sais que des fois c'est un petit peu plus dur. Et puis il peut y avoir aussi une histoire de confiance en votre prix. C'est pour ça que je dis toujours, on s'en fout du prix que idéalement votre programme devrait entre guillemets coûter. Il y a surtout le prix avec lequel vous vous sentez à l'aise de le vendre, le prix que vous seriez capable de crier sur tous les toits, parce que c'est le prix que vous vibrez, en quel vous avez confiance, enfin en tout cas à ce prix là vous êtes confiante en votre programme, en la vente de votre programme. Donc il y a vraiment une histoire de confiance aussi dans ce que vous vendez finalement, hein, dans votre offre. Et puis la deuxième chose qui est aussi souvent un frein à la vente et qui fait qu'on a des flops, eh bien c'est déjà de commencer par une offre qui rencontre votre audience à son niveau de conscience actuel. Je m'explique, je vois souvent des profs de yoga qui veulent essayer d'éduquer les personnes à qui elles s'adressent ou leur audience, alors que votre job, surtout au début, c'est de répondre aux besoins connus de votre audience. Donc, autrement dit, de vous adresser votre contenu, votre offre, votre stratégie de lancement, elle doit s'adresser à ceux qui ont conscience du problème et de leurs problèmes et qui savent que des solutions existent. Ils ne savent juste pas encore quelle solution choisir ou si éventuellement votre solution c'est la bonne pour eux et si vous êtes la bonne personne. Et donc votre job, ça devrait être d'avoir uniquement entre guillemets à ce qu'ils identifient ça, voilà, à votre contact. Mais si vous répondez si vous essayez de convertir vos clients sur un sujet, de les éduquer sur un sujet et qu'ils n'ont pas encore conscience de leurs problèmes ni des solutions qui existent, qu'il y a une solution à ce problème, bah en fait vous partez trop loin. Donc ça, c'est bien en termes de contenu pour éduquer toute l'année. Si vous êtes en evergreen comme moi ou hors période de lancement, vous pouvez mettre à ce moment-là des contenus et des stratégies pour ces personnes-là qui n'ont pas encore conscience du problème ou qui viennent d'en prendre conscience tout juste. Mais quand vous créez une offre, assurez-vous qu'elle réponde à un besoin déjà connu de votre audience, c'est-à-dire que votre audience, elle a déjà identifié son problème et entre guillemets, elle est prête à sauter à pieds joints dans une solution. Elle sait juste pas encore laquelle, si c'est la vôtre ou pas, si c'est avec vous ou pas, etc., etc. Donc voilà, c'était mes deux petits conseils supplémentaires. Confiance à 100% en votre programme et commencez avec une offre qui répond en tout cas aux besoins connus de votre audience. Donc, normalement, après être passé à la moulinette par ces différentes étapes, il y a de fortes chances que t'en tires un paquet d'enseignements et d'actions à mettre en place pour affiner ton offre et pour rectifier la trajectoire. Donc, si on récapitule, première étape, on va identifier le résultat obtenu et le contexte. Deuxième étape, on va détailler le parcours de notre client et les stratégies qu'on a mis en place pour chaque étape entre, finalement, l'idée et le lancement. Troisième étape, on va relever les datas. Quatrième étape, on va faire le bilan avec la méthode KISS, Keep, Improve, Start and Stop. Et enfin, on va mettre un plan d'action correctif. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Tu pourras le ressortir à chaque fois que tu n'atteins pas tes objectifs, ce que je te souhaite le moins souvent, ou quand tu observes quelque chose qui fonctionne moins. Peut-être quelque chose qui fonctionne moins et qui commence à s'installer ou à durer dans le temps aussi. Ça peut être dire à un moment donné, tiens, je vais faire un audit parce que la situation commence à durer et ça prend une mauvaise tournure. Donc ça peut être valable aussi à ce moment-là d'utiliser l'audit. En tout cas, à tout moment, si tu veux être accompagné pour toutes ces étapes, c'est dans YogiBizLine que ça se passe. Donc tu peux nous rejoindre quand tu veux. C'est un programme qui est disponible, qui est accessible toute l'année, que tu peux suivre à ton rythme et qui est en accès illimité. Donc tu trouveras toutes les infos dans les notes de cet épisode si tu veux nous rejoindre. YogiBizLine, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.